Stephen Zerbinski. Voici les nouvelles. Autre histoire d'horreur pour la famille d'un Canadien mort à Cuba. Le père de Jennifer Trottier est mort le 27 février dernier à Cayo Largo, alors qu'il y était avec sa conjointe pour l'hiver. La famille déplore n'avoir eu aucune aide des autorités canadiennes. En entrevue ce matin à Montréal avec Paul Arcand, elle a indiqué que ce sont les cendres d'un autre homme décédé au Panama, qui leur ont été remises. À ce jour, Jennifer Trottier indique que la raison du décès de son père, qui présentait des blessures à la tête, demeure inconnue.
Il était laissé à la chaleur là-bas, là, environ de l'heure du midi jusqu'à 7 heures le soir, avant qu'il transporte à la Havane en hélicoptère. Habituellement, dans une autopsie, quand on a des blessures, c'est indiqué, mais là, non, silence radio.
Le taux d'absentéisme à l'école actuellement est comparable à celui observé durant la pandémie, c'est selon la presse. Au début du mois, c'est 1 élève sur 10 au Québec qui était absent. Avant la pandémie, on notait plutôt de 5 à 7 d'absence. Les causes varient, l'une d'elles étant les vacances des parents. Beaucoup d'élèves, par ailleurs, ne veulent pas aller à l'école et les parents n'ont d'autre moyen que de les laisser seuls à la maison. Le psychologue spécialiste en matière de réussite scolaire, Égide Royer, explique ici qu'il existe des absences passagères et des absences chroniques. Ces dernières sont celles qui doivent retenir l'attention.
Ça implique probablement souvent de sortir de l'école et d'aller voir. On peut découvrir toutes sortes de choses, allant de la phobie de l'école, en passant par le jeune qui a décidé de sacrer solo parce qu'il veut travailler, ou en passant même avec un jeune qui est en conflit ou qui est victime d'intimidation à l'école. Ça touche pas nécessairement un grand nombre d'élèves, mais c'est nettement les plus à risque au niveau de la santé mentale et l'échec scolaire.
5 nouveaux projets d'hospitalisation à domicile seront déployés au cours des prochains mois. Ceux-ci s'ajoutent aux 8 premiers annoncés en mai 2023 qui ont débuté ou sont en voie de commencer. L'hospitalisation à domicile permet aux patients de poursuivre leur hospitalisation en partie ou en totalité à la maison. Les nouveaux projets seront déployés notamment au CHUM, au CUSUM, à l'hôpital Pierre-Boucher à Longueuil, ainsi qu'à l'hôpital Anna-Laberge du côté de Châteauguay. D'ici 2026, l'Institut de la pertinence des actes médicaux va investir plus de 40 millions de dollars pour le déploiement de l'hospitalisation à domicile provenant de l'enveloppe de rémunération des médecins spécialistes. Quelle histoire, alors qu'à Brossard, sur la rive sud de Montréal, un suspect a été arrêté la nuit dernière en lien avec un vol d'essence plutôt inusité qui s'est produit dans une station-service. Selon la police, le montant du vol dépasse les 5 000 $. Le jeune homme de 19 ans qui a été arrêté était aidé par un autre individu qui, lui, a pris la fuite à pied. Alors, les deux suspects avaient amené, vous l'aurez compris, de nombreux bidons d'essence. La scène s'est produite au commerce situé sur le boulevard de la Grande Allée, aux alentours de 2h15, la nuit dernière. En terminant, selon un sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, près des 3/4 des dirigeants de PME croient que le gouvernement du Québec devrait ouvrir le marché de l'alcool. Selon elle, il est grand temps d'engager un débat sociétal sur la vente d'alcool et d'adapter le système actuel en faveur des producteurs locaux, des distributeurs, des restaurateurs et surtout des consommateurs. Alors, ce sondage révèle notamment que 72% des propriétaires de PME croit que les détaillants privés devraient pouvoir vendre les mêmes produits alcoolisés que la SAQ. 74% pensent que les boissons alcoolisées vendues directement par des producteurs ne devraient pas être assujetties aux taxes et aux majorations de la SAQ. Vous écoutez Cogeco.
Météo. FM 93. Météo.
On parle de soleil pour aujourd'hui, même si on vit avec quelques passages nuageux présentement. Un beau maximum à 16 degrés. La nuit prochaine, c'est du temps partiellement nuageux. Ça va devenir nuageux de plus en plus à mesure que la nuit va avancer. Minimum à 7 degrés de la neige demain.
93. C'est fixe.
C'est le titre
avec Jean-Claude Chilina.
C'est le titre vite.
AW Berthier.
Oui, bonjour, AW, comment ça va?
Ça va bien.
Ben oui, petite voix saugrenue, content de te parler.
Oui, à qui vous voulez parler?
Moi, j'appelle juste pour une petite information, tu serais gentil.
Oui.
Ben, le gars qui fait goûter des hamburgers AW dans la rue, là.
Oui.
Je voulais savoir s'il passe dans mon coin.
Ben, vous êtes dans quel secteur?
Non, mais je te dis ça, ça ferait mon affaire qui passe à midi parce que ma femme Ginette m'a pas fait de lunch, là.
Bon, ça vous fait pitié, là.
Ben oui, puis en plus, j'aimerais ça passer à la TV puis mordre dans un burger AW. Ça changerait mon haleine de 20 dépanneurs.
Vous êtes un bon comique.
Ah, dis-moi, moi, ce que j'aime chez AW, c'est que vos burgers au poulet, ils contiennent pas d'antibiotiques. C'est vrai, ça, hein?
Oui.
Ça, c'est parfait. C'est...
Oh.
Ben, parce
ça,
que.
Vous en prenez assez?
Ben, non, mais c'est parce que je veux pas guérir ma grippe, hein. Je me sers de ma grippe pour pas coller ma femme au lit. Tu comprends ma stratégie?
Oui, bon petit comique.
Ben oui, je te dis ça rapidement, là. Si votre comédien qui fait goûter des burgers dans la rue passe devant notre taverne, appelez-nous, on va sortir en zigzagant, prendre une bouchée de burger avec 7 onion rings puis 3 root beer tablettes. Ça marche-tu?
En passant, c'est pas un comédien, c'est un vrai employé.
C'est un vrai employé qui fait ça, OK, parfait. Hey, non, mais pis si jamais on est malade, on roulera l'ours AW par terre pour essuyer des gars.
Ah, vous souhaitez une bonne journée.
Ah non, mais on fait bien des faces, mais je suis quelqu'un d'équilibré, moi. Toujours une bière dans chaque main. De farfadet.
Ben oui, vous entretenez.
Bon, ben des gros menoum.
OK, bye.
Je travaille de faire un enfant, ma femme Ginette, moi, être un papa burger. Bye
bye. Ça va croire qu'elle aime la viande, hein?
Ben oui, j'aime ça de la AW. Bye bye.
Bye.
Réveil Rimouski vous parvient en direct du studio McDonald's du lundi au vendredi de 6h à 10h. C'est fixe FM 93.
Réveil Rimouski à C'est fixe FM 93. La référence en information.
Voici Jonathan Trudeau.
Bon, ben d'abord, Honda qui choisit l'Ontario pour l'ensemble de son projet de construction de voitures électriques.
Oui, c'est un projet qui était dans l'air depuis un bon moment, puis on savait qu'Honda regardait du côté de l'Ontario pour la fabrication de ces voitures, mais il y avait des pourparlers avec le Québec pour une composante de ce projet-là, c'est-à-dire l'usine de cathode. Ça avait été évoqué dans les médias à quelques reprises. On parlait même d'une possible participation dans Nemaska Lithium qui aurait fourni l'usine de cathode pour compléter, si on veut, le financement. Au final, on aura choisi l'Ontario également pour l'usine de cathode. Selon plusieurs médias, on parle d'une annonce qui pourrait avoir lieu jeudi, quelque chose comme quoi 18,5 milliards de dollars. Doug Ford a déjà dit que ce serait deux fois la taille des investissements de l'usine de Volkswagen. Ce qu'on comprend, c'est que Honda était tout simplement trop gourmande et l'Ontario, elle aurait accepté de donner les quelques centaines de millions de plus qu'on demandait. J'ai vu circuler, en tout cas, j'ai entendu 300 millions. On était peut-être dans ces eaux-là. Bref, quelques centaines de millions de dollars. Et là, la question, c'est, est-ce que c'est une grosse défaite? Est-ce que c'est une immense déception pour le Québec? La réponse que moi, on me donne, c'est non, mais je pense que ça fait du sens. C'est-à-dire que, évidemment, au Québec, on aurait aimé le symbole. Le message très, très fort que sera envoyé, parce que Honda, ça parle à tout le monde. Ce serait devenu, si on veut, le porte-étendard de l'industrie, de la filière batterie au Québec. Sauf que c'est pas une fin en soi. Pourquoi? Parce que avec toutes les annonces qui ont été faites au cours des dernières années, il y a un écosystème vraiment qui est en train de prendre place, qui va prendre place, Bécancour, Nordvolt, etc. Et au-delà de ça, ben il faut se dire que le projet d'Honda aurait eu un impact significatif sur nos capacités. Puis je mets un S à la fin de capacité financière, parce qu'à un moment donné, il y a une limite au nombre de milliards qu'on peut mettre dans la filière batterie. Fitzgibbon a dit quoi, on a 5, je pense, demi, on pourrait se rendre jusqu'à 20 milliards. Ben Honda serait venu prendre une grande partie de ces moyens-là qu'on met à la disposition de la filière batterie. Puis l'autre chose, ben évidemment, c'est la disponibilité de l'énergie, qui est très limitée. D'ailleurs, on me dit que très prochainement, je pense qu'on parle de quelques jours, le gouvernement Hydro-Québec devrait annoncer la ventilation des projets retenus en fonction des mégawatts disponibles. Répartition régionale et tout ça. Donc ça va être très intéressant à suivre. Mais bref, ce qu'on comprend, c'est que Honda aurait été priorisé, mais que là, le fait finalement qu'on les laisse aller en Ontario, ben, ça va laisser la place à d'autres projets, peut-être plus de projets de moins grande envergure.
Moi, j'ai deux questions. J'ai hâte de voir l'aide totale des deux gouvernements, là, autant le fédéral que l'Ontario, voir combien Honda a réussi à aller chercher. Puis c'est quoi la différence peut-être avec le Québec? Mais c'est toujours stupéfiant de voir des multinationales comme ça faire un peu de chantage puis de magasinage d'une province à l'autre puis d'un pays à l'autre. Mais bon.
Et comme s'ils n'avaient pas les moyens.
Ben, en tout cas. Et l'autre chose, c'est de voir comment va se passer l'implantation de ce projet de Honda en Ontario. Est-ce qu'on va vivre un Nordvolt 2? Est-ce que... Non, non, mais ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir comment l'Ontario va gérer ça par rapport à comment Québec a géré ça.
S'ils vont en direction moins épidermique et si peut-être, ouais, effectivement, la stratégie de communication va être mieux,
ben, en tout cas,
mieux aiguisée.
Ça sera pas pire. Bon, ça brasse entre le chef du Bloc, Yves-François Blanchet, et Pierre Poilievre, tout ça au sujet du recrutement d'Éric Lefebvre, qui demeure, on le sait, député indépendant à l'Assemblée nationale.
Ouais, je dois dire que ces deux-là sont de plus en plus divertissants, particulièrement sur les médias sociaux. Ça promet pour le ou les débats français lors de la prochaine campagne électorale. Moi, si j'étais à la place de Justin Trudeau, j'aurais un peu peur d'être totalement éclipsé. En fait, on peut se demander si c'est pas déjà un peu ça au Québec. Là, on retient beaucoup la dynamique entre le Bloc et le Parti conservateur. Et là, c'est sur le recrutement d'Éric Lefebvre. Donc, tu l'as dit comme candidat dans Richemont-Arthabasca. Je te lis juste deux passages de deux tweets d'Yves-François Blanchet pour que les gens aient un peu le ton de comment ça se passe. Il dit, votre candidat prend un salaire de l'Assemblée nationale du Québec pour travailler contre le Québec, parce qu'il estime que les positions du Parti conservateur sont à l'encontre du Québec. Et là, il dit, je vous conseille de beaucoup venir au Québec, parce que moi, je vais être partout pour vous brasser le gros bon sens. Protéger vos comtés ne sera pas de tout repos. Conserver Richemont-Arthabasca ne sera pas de tout repos. Et là, il convoque un peu dans une espèce de duel public, là, une joute évidemment d'un débat, mais il dit, je propose encore une discussion publique à Victoriaville, s'il le veut. Va-t-il continuer à se sauver de moi encore longtemps? Il a le gros bon sens, pas très brave. Alors, et évidemment, Pierre Poilievre qui se fait pas prier non plus pour critiquer le Bloc québécois. Donc, c'est intéressant, mais tu sais, sur le fond, est-ce qu'Éric Lefebvre peut rester député? Moi, je sens que la pression augmente un peu plus là, depuis...
Je trouve ça indécent. C'est pas est-ce qu'il défend ou pas les intérêts du Québec. Ce gars-là est payé par l'Assemblée nationale pour faire campagne au fédéral. C'est juste ça, là, en partant. Tu veux te présenter, parfait, mais laisse ton emploi.
C'est sûr qu'à partir du moment où il y aura un déclenchement, il n'y aura pas le choix de laisser son emploi.
Il va faire quoi, tu penses, d'ici là?
Ben, c'est là où je pense qu'il devra être très, très, très prudent. Parce que, tu sais, dans les faits sur papier... Est-ce que le changement l'empêche de faire son travail de député, représenter ses commettants?
Oui, puis il va pas expliquer à ses commettants. Ben, il va dire, oui, je fais avancer votre dossier en passant. N'oubliez pas, je suis candidat conservateur.
S'il faisait uniquement ça, ce serait défendable. Mais on le dit que c'est un bon organisateur. Il est mieux d'être très, très,
sérieusement,
très
je trouve ça indécent. D'abord, que quelqu'un quitte en plein mandat, c'est une affaire. Quand t'as une bonne raison familiale ou autre, je comprends. T'es tanné, à la limite, je comprends. Mais tu fais le saut parce que tu t'en vas ailleurs. Hey, c'est un manque de respect.
Et en passant, les opposants politiques à François Legault rappellent qu'à l'époque où Martine Ouellet faisait du transparlementarisme, il avait insisté pour qu'elle démissionne, ce qu'elle n'avait pas fait. Elle était restée députée indépendante. Ouais. Mais du côté du gouvernement, on me rappelle, non sans raison, ça enlève rien aux critiques que tu fais, Éric Lefebvre, mais Martine Ouellet, il y avait une couche de plus. C'est-à-dire qu'elle était carrément chef d'un parti politique à Ottawa temps plein, en plus qu'elle prenait son salaire à l'Assemblée nationale.
Bon, Jean-François Roberge va aussi avoir son tableau de bord, cette fois, pour mesurer le français. On devrait avoir une usine de tableau de bord au Québec, parce que c'est très populaire.
Sérieusement, après la filière batterie, c'est la filière tableau de bord. Venez au Québec, c'est notre spécialité, les tableaux
de bord. Les composantes de tableau de bord.
Oui, voilà, c'est Tommy Schwiner qui nous apprend ça dans la presse, qui a mis la main sur le plan d'action pour la langue française. Et là, ça fait suite à la mise en place d'un groupe d'action pour l'avenir de la langue française qui avait été mis en place il y a un peu plus d'un an, 6 ministres, Jean-François Roberge, Bernard Drinville, Christine Fréchette, etc. Puis, je dois dire que c'est vrai qu'à la lecture de l'article, on peut trouver qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau à part un tableau de bord, alors qu'on parlait d'un groupe de travail qui était pour susciter un réveil national. Fait que, tu sais, les mesures qui sont là-dedans, on les connaît déjà pas mal tous, c'est-à-dire en immigration, augmenter les exigences au niveau de la maîtrise du français, en culture, la mise en valeur des contenus francophones sur les plateformes numériques, en éducation, on a vu, bon, les droits de scolarité dans les universités, meilleure maîtrise du français, etc. Donc, ça donne l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux. Mais en discutant, je sais que tu vas parler avec Jean-François Roberge tantôt, en discutant avec des gens au gouvernement dans les dernières heures, ce qu'on me dit, c'est que les orientations que je viens de vous nommer, qui sont dans le plan, qu'on a l'impression que c'est peut-être un peu du réchauffé, ben c'est le fruit du travail de ce groupe d'action-là et qu'ils avaient préféré annoncer